Alors, qu'est-ce qui caractérise notre église locale? Si quelqu'un voulait vous demander, mais alors, si je viendrais au sein de votre église locale, qu'est-ce que je verrais? Qu'est-ce que je comprendrais comme étant
la mission, la vision de l'église?
Qu'est-ce qui caractérise notre église locale? Chaque église locale a une adresse, chaque église locale a des méthodes différentes, chaque église locale a des habitudes. Chaque église locale, elle est différente, elle est unique. Elle est unique, faisant partie du membre du corps de Christ, donc faisant partie de la scène évangélique donc en France. Je vous ai dit donc au mois de mars qu'on était passé à 650 000 évangéliques en France. Ça fait 1% depuis que j'étais arrivé en France, depuis que j'avais commencé à prier pour la France en 1974. On me parlait toujours de on est 0 point virgule point je sais pas combien de chrétiens, et là donc apparemment on est 1% de 65 millions d'habitants. Est-ce que ça vous réjouit? Est-ce que ça réjouit votre cœur? Est-ce qu'il y a de l'espoir pour qu'un jour on soit 5% et 10%, pourquoi pas? Mais posons-nous la question, qu'est-ce qui doit caractériser notre église locale? Et en fait, qu'est-ce qui était considéré comme étant le plus normal dans l'église aux Actes des Apôtres? Alors, quelle prétention de se comparer à l'église des Actes des Apôtres? Non, tout simplement, on est la continuité de ce qui a été commencé dans le livre des Actes des Apôtres. Et donc, on va avoir 5 points fondamentaux sur lesquels l'église des Actes des Apôtres basait leur vie d'église locale, basait leur activité, basait leur vision et basait leur mission. Tout commençait par l'évangélisation. L'évangélisation. Pour être disciple de Jésus. Comment allons-nous toucher des futurs disciples de Jésus? Tout commençait par l'évangélisation. Moi, je me rappelle en 1984, quand nous avons ouvert l'église ici, on avait une salle de 130 mètres carrés, on mettait 5 chaises ici en cercle, on mettait 140 chaises vides et on ouvrait les portes. Et le dimanche après-midi, tous les 15 jours, on était à Gare du Nord, on était devant l'Opéra. On était parfois donc à Pompidou, on allait avec la guitare, on allait avec des traités. Donc au départ, on était 3 adultes et 2 enfants. Après, donc, on était 5 adultes et 4 enfants, etc. Mais alors, on était toujours en train d'essayer d'interpeller quelqu'un sur lequel le Saint-Esprit aurait pu commencer à œuvrer, à travailler. Et que comme Philippe, on viendrait par hasard à leur côté et on leur dirait, comprenez-vous ce que vous êtes en train de lire? Et que la personne réponde et dise, mais comment veux-tu que je comprenne s'il n'y a personne pour me l'expliquer? Et comme par hasard, on pourrait dire, mais on est là pour vous l'expliquer. On est là. Le Seigneur nous a envoyés. Le Seigneur nous a envoyés. L'évangélisation. Dès le départ, il fallait aller chercher les brebis égarées. Il fallait aller chercher les personnes. Je me rappelle pour notre 10e anniversaire, 5e anniversaire, on a eu beaucoup de fois. J'ai imprimé 10 000 invitations pour une convention de célébration des 5 ans de l'Église. On était à l'époque, je crois, on était 20 adultes et peut-être une dizaine d'enfants. Et alors, on a donné des invitations. Et on a donné des invitations partout, partout, partout. Vous savez combien de personnes sont venues à nos 3 soirées d'anniversaire? Aucune. Aucune. En 1987, donc l'église avait 3 ans, on a eu beaucoup de zèle et on a distribué 60 000 évangiles dans le 10e arrondissement. On a pris le plan du 10e, on a pris tous les quartiers et on a fait maison par maison, par maison, par maison, par maison. Un jour, on a rencontré une dame qui s'appelle Julia, qui habitait donc au square de la rue Sainte-Marthe. Et savez-vous qu'aujourd'hui, Dominique et Alice, qui sont avec nous, ils habitent dans le même immeuble où Julia, une dame polonaise, avait demandé la prière. Dominique est presque né dans ce bâtiment. Donc, c'était très intéressant quand on s'est connus. Et quand je suis allé chez eux, je dis, mais Mais moi, je suis rentré ici. On a rencontré une dame qui s'appelle Julia, qui avait 80 ans à l'époque, etc. Mais maintenant, c'est vraiment des souvenirs sont revenus. Et alors, on a témoigné, on a parlé à des personnes. Je me rappelle avec Léonie Alonso. Léonie Alonso était une toute petite dame qui était toute courbée, hein, qui a témoigné à des milliers de personnes, à des milliers de personnes qui ont gagné donc, des étudiants du monde entier pour le Seigneur, etc. Elle allait toujours à cette universitaire. Elle allait prendre le repas à midi. Elle témoignait autour d'elle. Elle revenait donc le soir. Et elle témoignait autour d'elle. Et Dieu a fait des choses extraordinaires au travers de Léonie. Et Léonie et moi, donc, on a fait des porte-à-porte ici sous le canal. Et on arrive à une porte, et on frappe, et on entend quelqu'un qui prend donc un coup de fil, et tout d'un coup, la personne commence à sangloter, la personne ouvre la porte, qu'est-ce que vous voulez? Et on lui a dit, mais on voulait venir vous dire que Jésus vous aime. Mais on vient de me dire que ma mère est décédée. Alors, j'ai besoin de réconfort. On a prié pour elle, Léonie a prié pour elle. Ce n'était pas un hasard, c'était un rendez-vous que Dieu avait établi. Donc l'évangélisation, Actes chapitre 1, verset 8, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Nous ne pouvons pas nous contenter d'être les seuls à connaître Christ. Nous ne pouvons pas nous contenter. Alors, comment allons-nous inviter les personnes? Parce qu'on doit tous inviter tout le monde, tout le temps. Tout le monde, tout le temps. Tout le monde, tout le temps. Par de différentes manières, mais inviter tout le monde, tout le temps. Est-ce que nous avons donc une évangélisation qui est contagieuse? Est-ce que nous avons donc une évangélisation et un cœur d'évangéliste en tant que tout simplement enfant de Dieu, disciple de Jésus-Christ, qui veut évangéliser, qui veut venir et donner l'occasion à d'autres personnes d'entendre parler de Jésus. Jean 4, la femme samaritaine. Vous vous rappelez l'histoire? Jésus, il attend que les disciples aillent acheter à manger. Il est assis à côté d'un puits, et une dame qui vient chercher de l'eau. La conversation qui a lieu, vous pouvez la lire en détail. Mais Jésus commence à parler à cette femme et lui dit, mais si vous saurez qui vous demande de l'eau, vous lui demanderez de l'eau et vous n'aurez jamais soif. Alors cette femme, au départ, elle pensait, ah oui, donc c'est une source donc éternelle physique, alors de laquelle il parle. Mais en fin de compte, Jésus parlait de choses spirituelles. Alors vous continuez donc dans l'histoire. Alors il commence à parler, oui, mais nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous vous dites que le lieu qu'il faut adorer est à Jérusalem. Verset 21, femme lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Ensuite, donc, la femme, donc elle comprend que peut-être par des choses que Jésus est en train de lui révéler, peut-être celui le Messie, peut-être celui le Christ. Parce qu'il va au verset 29 en criant dans la ville en disant, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce point le Christ. Cette femme, venez voir un homme. Moi j'aimerais que des personnes disent, venez voir une partie de l'église de Jésus-Christ, venez voir une église locale, et ce que vous allez voir, ce que vous allez comprendre, va vous pousser à vouloir connaître Dieu. Va vous pousser donc à vouloir vraiment avoir une rencontre personnelle avec Dieu. Venez voir. Et la foule est venue. Et le salut est venu dans cette ville. Quelque chose s'était passé parce qu'il y avait une personne qui allait changer l'histoire, la vie de cette femme. De combien de personnes changeons-nous l'histoire? De combien de personnes changeons-nous un aperçu sur un avenir d'espérance? Invitons-nous les personnes à expérimenter Dieu, à expérimenter Christ, à expérimenter la vie éternelle, à expérimenter donc la vie éternelle qui commence déjà de connaître Dieu ici-bas. Évangélisez, mais préparons-nous pour répondre à leurs questions. Car si vous voyez ici, en Jean chapitre 4, Il y a eu un dialogue entre Jésus et la femme. Et la femme lui posait la question et Jésus lui répondait. Et il lui disait encore et Jésus lui répondait. Et vous savez, il faut que nous, on sanctifie à tout instant le Seigneur Jésus dans nos cœurs, la Bible dit en 1 Pierre chapitre 3, verset 15. Et par la suite, toujours, nous devons être prêts à défendre avec douceur et respect devant quiconque nous demande concernant l'espérance qui est en nous. Préparons-nous. Soyons formés. Ne sortons pas pour évangéliser, ne sortons pas pour donc aborder des personnes donc avec un message de foi si nous ne sommes pas entraînés. Je vous ai dit que quand ma sœur Ruthanne, qui était ma professeure d'évangélisation personnelle à l'école biblique, donc elle avait 19 ans et moi j'avais 14 ans, elle nous a obligés à mémoriser 500 versets en un an. Alors quand j'ai dit à ceux qui vont faire l'initiative que c'est un verset par semaine, ah, oh, au moins, c'est qu'un verset par semaine. 500 versets en un an. 500 versets en espagnol. Alors, depuis, je les ai mémorisés aussi en anglais, en français. Mais alors, pourquoi? Parce qu'il fallait être versé dans ce qu'on allait transmettre. Si on évangélise, il faut qu'on soit préparé. Parce que si on va évangéliser, il y aura des conversions. Et il y aura des futurs disciples. Qui c'est qui va faire les disciples? Ce n'est pas bon. Moi, je vais évangéliser et après, quelqu'un d'autre prendra la suite. Si tu vas évangéliser, il faut que tu ailles jusqu'au bout parce que une fois que la personne est évangélisée, il faut qu'elle devienne disciple de Jésus-Christ. Et moi, je ne peux pas évangéliser si je n'ai pas un plan de comment je vais faire des disciples. Si tu commences, il faut aller jusqu'au bout. Si tu commences à pleurer pour les âmes, que tu commences à avoir une compassion pour les âmes, c'est parce que Dieu ne veut pas simplement que tu leur parles de lui, mais il veut que tu les amènes jusqu'à être des disciples de Jésus-Christ, jusqu'à être baptisé, jusqu'à recevoir l'enseignement qu'il nous a prescrit, et jusqu'à être rassuré qu'il est aussi avec eux jusqu'à la fin du monde. Est-ce que notre Église est caractérisée par un esprit d'évangélisation? On est tous appelés à inviter tout le monde, tout le temps. On est tous appelés à parler à tout le monde, tout le temps. Saisissons les occasions que Dieu nous donne et soyons des évangélistes. L'évangéliste, en Éphésiens chapitre 4, parle de quelqu'un qui a un don ministère qui passe dans les églises pour sensibiliser à l'évangélisation. Il y a aussi donc comme Billy Graham, évangéliste, il est allé dans des grandes villes, il a parlé à plus de 200 millions de personnes donc de l'existence de sa vie. Et alors Dieu l'a utilisé puissamment, mais lui, je vous ai déjà dit, son seul regret c'était que 7% de ceux qui avaient accepté Christ dans leur cœur sont arrivés à intégrer une église locale et à être des vrais disciples de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas les équipes d'accompagnement. Il y avait l'évangéliste, mais chaque fois qu'il venait dans une ville, il s'assurait qu'il y avait des églises qui étaient prêtes à accueillir les personnes, qui étaient prêtes à être des ondrées pour pouvoir accompagner, pour accompagner les personnes vers Jésus. Pourquoi? Parce que si la personne était évangélisée, mais qu'il n'y avait pas de suite, alors tout tombait à l'eau. Rien de ce qui a été donné et proclamé a été en vain. Rien de ces millions de personnes qui sont converties, ils vont un jour être obligés de dire, oui, un jour j'ai pris une décision, oui, un jour j'ai cru donc m'approcher de Dieu. Mais comme l'Église et les Églises donc, n'ont pas été fidèles donc, dans l'accompagnement, beaucoup de ces personnes, voilà, leur expérience n'a pas eu de racine. Et donc la personne, avec le temps, s'est découragée. Ils ont dit, bon, si c'est ça être chrétien, c'est ça être chrétien. Mais aujourd'hui, nous avons des personnes que je connais qui ont été converties dans la campagne de Billy Graham de 86, qui sont pasteurs. Dieu a fait des choses extraordinaires. Donc en 86, à Bercy, donc il a eu vraiment de fruits, mais il aurait pu avoir beaucoup plus de fruits parce qu'il y avait toujours cet encouragement à l'Église. Donc, évangélisons, mais, deuxième point, faisons des disciples. C'est un ordre, ce n'est pas une suggestion. Matthieu chapitre 28 et verset 19 nous dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseigne-leur tout ce que je vous ai prescrit, car je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » L'Église, dans le livre des Actes des Apôtres, se sont consacrés, ils étaient dévoués à faire des disciples. Regardez avec moi en Actes chapitre 2. Actes chapitre 2, verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils, qui, les disciples, persévéraient dans l'enseignement des apôtres, ils persévéraient dans la communion fraternelle, ils persévéraient dans la fraction du pain, ils persévéraient dans les prières. La crainte de Dieu, bien sûr, s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens, ils ont partagé le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Ils étaient consacrés et dévoués à créer un contexte dans lequel le Seigneur se plairait à ajouter à l'Église ceux qui étaient sauvés. Car ceux qui étaient sauvés allaient instantanément être considérés disciples de Jésus-Christ. Si tout le monde ne s'implique pas ensemble, il n'y aura pas la croissance. Il n'y aura pas, sans ce dévouement, le contexte dans lequel le Saint-Esprit ajoutera et avec confiance dire « Je peux confier à cette église locale ceux qui sont sauvés. Je peux donc leur faire confiance parce qu'ils ont compris l'importance de rester ensemble, de prier ensemble, de vivre la communion fraternelle ensemble, d'être vraiment le portrait de la famille de Dieu ensemble pour que quand les personnes nouvelles sont accueillies instantanément, ils ne sont pas dépaysés, mais instantanément, ils sont faire partie de la famille. Qu'est-ce qu'un disciple? On trouve le mot disciple 234 fois dans le Nouveau Testament. 234 fois. Lisez le Nouveau Testament et soulignez les fois que vous trouvez le mot disciple. Et vous allez voir exactement pourquoi c'est si important dans ce mot. Une personne qui reçoit l'enseignement d'un maître, celui qui suit un autre, un élève, un apprenti, celui qui adopte la doctrine de quelqu'un. Un disciple de Jésus-Christ est quelqu'un qui suit l'enseignement de Jésus. Et quelqu'un qui suit la doctrine de Jésus. Un disciple qui suit un autre. Bien sûr, on suit Jésus, mais aussi Dieu nous donne d'être des Paul pour des Timothée. Dieu nous place en tant que frère ou sœur aîné dans la foi pour quelqu'un qui est plus jeune. Et alors, il nous suit dans la mesure où nous, on suit Christ. Le psaume 32, verset 8, nous dit « Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, j'aurai mon regard sur toi et je serai à tes côtés pour te conseiller. » Ça, c'est l'attitude de quelqu'un qui veut faire un disciple. « Je vais t'instruire, je vais te montrer la voie à suivre. Je vais faire des sacrifices pour que tu comprennes que quand tu es au milieu de la tentation, tu peux réussir. Dieu sera là à tes côtés comme il a été à mes côtés. » Pourquoi? Parce que quand on a quelqu'un devant nous, on va apprendre à être docile, fervent, fidèle et soumis. C'est très intéressant de noter que les personnes qui vont nous suivre, qui vont nous imiter dans notre foi, les personnes qui vont fixer leur regard sur l'action de Dieu dans notre vie, ils vont par la suite se reproduire. Et en fait, ils vont finir en disant « Je vais faire cela car Jésus l'a fait. » Je vais faire cela parce que l'Église de Jésus-Christ m'a montré que c'est la voie à suivre. Quand on fait des disciples, on veille à ce que la personne grandisse dans sa connaissance de Dieu. Je me rappelle une fois un pasteur, il a dit, « Oh, quand les personnes se convertissent, on leur remet un Nouveau Testament et qu'ils se débrouillent. » C'est pas comme ça, non. Les gens ne savent pas se débrouiller. Ils sont étrangers à la présence de Dieu. Ils sont étrangers à la parole de Dieu. On va veiller à ce qu'ils grandissent dans la connaissance de Dieu. On va veiller à ce qu'ils grandissent dans leur relation avec le Saint-Esprit. On va veiller à ce qu'ils grandissent dans la sanctification. On va veiller à ce qu'ils grandissent dans l'appel que Dieu a pour eux. On va veiller à ce qu'ils grandissent en Christ. Et s'ils ne grandissent pas, c'est de notre responsabilité. Paul a dit à Timothée, « Timothée, les choses que tu as entendues en présence de, que tu entends du témoin, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles et capables qui vont par la suite le confier à d'autres. Alors si moi, je ne suis pas entouré des hommes et femmes fidèles et capables, parce que je n'ai pas obéi à ce que Paul avait dit à Timothée, je n'ai pas veillé à ce qu'ils deviennent des hommes fidèles et capables. Je leur donnais l'occasion d'entendre parler de Dieu, c'est tout, mais je ne veille pas sur leur caractère, capacité, honnêteté, fidélité. Le travail va se stopper et la chaîne de multiplication de la grâce de Dieu va être rompue. Parce qu'il y a d'autres qui doivent venir à Christ. Et dans les autres, il y a encore des Paul, des Timothée, des Esther, des Dorcas et plein d'autres. Pourquoi ? Parce que cette multiplication continue. Quand je fais un disciple, immédiatement, je m'ouvre à ce que la multiplication se fasse. Alors, est-ce que notre Église est caractérisée par un désir profond et par un dévouement à faire des disciples ? Et si je fais des disciples, ces disciples vont me ressembler. Ils vont m'imiter. Alors, le dimanche matin, on chante un chant, « Lève nos mains vers le Seigneur. » Et moi, oh, je n'ai pas envie de lever les mains. Et le disciple me dit, « Eh, mais on doit lever les mains. » Non, non, je n'ai pas envie. Je reviens avant, d'accord, moi non plus. Non, on est observé. Seigneur, je viens devant toi, j'exprime ma reconnaissance, j'exprime ma joie, j'exprime ma prière, je veux être fidèle envers toi, parce qu'il y a des petits qui me suivent, il y a des petits qui observent ma vie. Il y a nos enfants déjà en premier lieu, mais ensuite, il y a les jeunes dans l'église, il y a les ados dans l'église, les enfants dans l'église. Ils sont en train de nous observer et dire, mais alors quand je serai grand, comment est-ce que moi je serai? Troisièmement, cette église d'Actes des Apôtres était caractérisée par une relation sincère et profonde qu'il y avait entre les uns et les autres au sein du corps de Christ. Et nous aussi, nous devons être caractérisés par la relation que nous avons les uns avec les autres. Actes 4, 32 nous dit, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un seul cœur et qu'une âme. Comment est-ce que nous pouvons devenir d'un seul cœur et d'une âme? Lorsqu'on aura des temps de jeûne et prière ensemble, lorsqu'on va plier nos genoux ensemble, lorsqu'on va pleurer devant le Seigneur ensemble, lorsqu'on va écouter la parole de Dieu ensemble, lorsqu'on va ne pas réagir, mais on va agir selon ce que nous avons entendu. Et cela va rassurer les autres, et on va pouvoir marcher d'un même pas. Il n'était qu'un cœur et qu'une âme. Combien de fois on trouve la phrase les uns les autres dans la Bible ? Je vous cite 10. On est membres les uns des autres. Je suis membre de mon frère, de ma soeur. On est membres les uns des autres. Dis à la personne à côté de toi, tu es membre de mon corps. Je suis membre de ton corps. On est membres les uns des autres. On est membres les uns des autres. On ne peut pas se dire à... Je suis membre avec toi, mais pas membre avec elle ou avec lui. On est membres les uns des autres. On ne peut pas choisir. Le Saint-Esprit nous a placés dans le corps quand bien il a voulu le faire. Et nous sommes membres les uns des autres. Nous sommes appelés à nous aimer les uns les autres. Avec un amour fraternel, sincère, ardent. On ne choisit pas qui on va aimer et qui on ne va pas aimer. On ne choisit pas qui on va saluer et qui on ne va pas saluer. Non, 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 non. Non, non, dans l'église locale, on est appelé à être membres les uns des autres. À s'aimer les uns les autres. Avoir les mêmes sentiments. Pas d'exception des personnes, pas des différences. On a les mêmes sentiments les uns envers les autres. À s'accepter les uns les autres. Vous voyez ? Se saluer avec un saint baiser les uns les autres. Se rendre serviteurs les uns des autres, porter les fardeaux les uns des autres, se supporter les uns les autres. Il dit en Éphésiens chapitre 4, verset 2, en toute humilité et douceur, avec patience, nous supportons les uns les autres avec charité. Avec quoi ? Avec humilité et douceur. Qu'est-ce que Jésus a dit en Matthieu chapitre 11, verset 28 ? Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Humilité et douceur. Je suis doux et humble de cœur. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportons les uns les autres dans la charité. On est appelé à nous soumettre les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Et on est appelé à nous encourager les uns les autres. Parfois, on a l'impression qu'une église locale est impénétrable. Il y a des personnes nouvelles qui viennent. J'étais très impressionné hier. J'arrive. Je crois qu'une vingtaine des membres de l'église sont venus me saluer. Voilà. Voilà. J'étais un parmi d'autres personnes, mais vraiment avec un grand sourire et bienvenue. Et donc, qu'est-ce qu'on est content de vous voir? Je ne savais pas qui j'étais. Voilà, je suis venu donc comme visiteur. Alors, est-ce que toutes les personnes qui viennent dans notre église locale sortent d'ici en disant, mais au moins une quarantaine de personnes qui sont venues vers moi avec un sourire, avec une sincérité, qui vraiment ils m'ont donné la bienvenue, voilà, ils m'ont montré que je comptais pour eux, que j'étais important à leurs yeux. Ne soyons pas impénétrables. Hein. Ne restons pas où on rentre dans un local. Et que tout d'un coup, on est là et on attend, et on attend, et on voit les gens passer, les gens se saluent. Ah oui. Ah oui, je n'étais pas venu depuis dimanche, c'est formidable. Et oui, et moi, je suis là, etc. C'est tellement, tellement important que notre relation ne soit pas superficielle non plus. Pourquoi y a-t-il la solitude au sein d'une église locale? Parce que la relation souvent reste superficielle. Et quand tu vas vers quelqu'un pour lui dire « ça va ?», tu dis « non, ça va pas ». Ah, bon, quelqu'un d'autre te le demande, parce que moi je vais demander à quelqu'un d'autre si ça va ou ça va pas. Ah, ça va pas. Ça ne va pas. Ah, mais asseyons-nous, discutons. Humiliez ma famille, t'inquiète pas, on va discuter, ça va pas, on va prier. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? On dit ça va, mais on ne veut pas attendre la réponse non plus. Parce qu'on reste tellement, tellement à nos relations superficielles. Mais vous savez, quand les personnes ont besoin d'un frère, d'une sœur, ils vont aller plus loin que ce qui est superficiel. C'est pour ça qu'à Insté, nous avons donc des compagnons de croissance. Et alors on parle de, voilà, quand il y a des hommes, les hommes avec les hommes, les sœurs avec les sœurs. Pourquoi? Parce que dans ce moment de partage, qu'on va appeler plus intime, on va ouvrir notre cœur les uns envers les autres. Et bien sûr, ma sœur, j'espère que tu as une sœur dans l'église, une sœur en Christ avec laquelle tu peux ouvrir ton cœur, mon frère, un frère dans l'église avec qui tu peux ouvrir ton cœur. Allons plus loin que les relations superficielles. Alors pourquoi restons-nous superficiels quand nous portons le même nom de famille? Est-ce que nous portons le même nom de famille? Si mon peuple, ce qui est invoqué, mon nom. Alors, est-ce qu'on porte tous le même nom de famille? Est-ce qu'il faut se regarder comme si on portait le même nom de famille les uns les autres? Vous savez ce que ça veut dire, hein? Un membre de ta famille passe par une épreuve, t'appelle. Tu as un problème à la banque. Voilà, je suis donc en découvert et on risque de m'afficher à la Banque de France. Je vais vous dire, cette famille, ils vont tout faire pour que leur nom ne soit pas taché, pour que leur nom ne figure pas fiché à la Banque de France. Ils vont tout faire. Ils vont faire des prêts, ils vont faire ci, ils vont faire ça. Pourquoi? Parce qu'ils veulent aider le membre de la famille qui est dans la difficulté. Je le dis souvent quand on prie pour quelqu'un qui est malade, mais prions comme si c'était notre papa, notre mari, notre femme, nos enfants. Prions comme si c'était nous qui étions en train de pleurer à l'hôpital en voyant la personne décliner dans sa santé. Si on prie de cette manière, nos prières seront beaucoup plus efficaces. Mais aussi, notre aide pratique sera beaucoup plus efficace. Et notre manière d'aider et d'encourager et d'aller vers des personnes en lui disant, bon, si on fait partie de la même famille, alors il faut qu'on se connaisse. Il faut que je t'adopte dans mon cœur. Il faut qu'on passe du temps ensemble. On fait partie de la même famille, oui ou non? Faisons-nous partie de la même famille, oui ou non? Amen.
Amen.
Oui. Alors, c'est ça la relation. Élargissons les sphères de notre nom. Élargissons nos cœurs. Élargissons donc l'espace de notre tente. Élargissons nos cœurs les uns envers les autres. Parce que comment savaient-ils qu'ils étaient des vrais disciples selon Jean chapitre 13 et verset 35 ? À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples par l'amour que vous avez les uns pour les autres. Je vous dis, dans le livre des Actes des Apôtres, ce qui attirait le plus, c'était les actions, les gestes faits dans l'amour. Dans le livre des Actes des Apôtres, si vous lisez, vous voyez l'Église. Partout où ils allaient, ils manifestaient l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Les relations, sommes-nous une Église, comme le livre des Actes des Apôtres, qui veillait les uns sur les autres, qui se provoquait en amour et aux bonnes œuvres, qui veillait à ce que chaque personne marche dans une sincérité de cœur. Mais pour cela, il faut passer du temps ensemble. Et si tu dis à quelqu'un que tu l'aimes, la preuve de ton amour sera le temps que tu es prêt à donner, à passer du temps avec cette personne, et à connaître cette personne, et à lui donner un sentiment de confiance et de sécurité dans la famille de Dieu. Mais dans les églises, et dans toutes les églises locales, c'est pareil. Parfois, il y a des petits groupes, parfois, il y a des petites cliques, parfois, il y a, voilà. Il y a donc des petits mondes, des petites scissions dans la famille, et tout d'un coup, il y a une partie là, une partie là. On porte tous le même nom. Nous portons son nom. Le nom de Dieu est invoqué sur nous. Alors Dieu nous appelle, si nous voulons dire aux personnes, venez voir un homme, venez voir une église, venez voir, c'est du vrai. Venez voir, quand les gens disaient, nous voulons voir Jésus, venez voir et vous ne serez pas déçus. Venez voir l'action du Saint-Esprit dans la vie des personnes qui ont une relation les uns avec les autres au sein du corps de Christ local que nous sommes. Donc, l'évangélisation, ça commence par là. Ensuite, c'est le faire des disciples. Ensuite, les disciples, il faut qu'ils s'entendent entre eux. Se supportons les uns les autres. Colossiens chapitre 2, 3 nous dit, s'il a un sujet de se plaindre, pardonnez-vous réciproquement. C'est tout. Il ne dit pas, s'il a un sujet de se plaindre, appelle 20 frères dans l'église et sœurs et dis-leur, bon, vous savez, il ne faut pas en parler, hein, mais bon, vous savez, vraiment, j'ai du mal avec cette situation, cette personne. Mais bon, il ne faut pas en parler. Hein. Quand vous dites, il ne faut pas en parler, vous pouvez être sûr que ça va être répété. Ça va être répété. Pourquoi ? Parce que les personnes, tout d'un coup, ils vont commencer à avoir un regard différent par rapport à la personne qu'ils ont entendu parler. Supportez-vous les uns les autres, sinon je vais se plaindre. Pardonnez-vous réciproquement, comme Jésus vous a pardonné, comme Dieu vous a pardonné en Jésus-Christ. Des fois, on ne veut pas supporter, et on veut réclamer nos droits, et on veut réclamer que nous avons notre position et que nous avons notre mot à dire. Qu'est-ce qui est important à la fin de la journée? Qu'est-ce qui est important? Ce que Dieu fait dans ta vie, qui tu aimes, qui t'aime, et ce que tu fais pour que le royaume de Dieu avance. Tout le reste tombe à l'eau. Une fois que la relation les uns avec les autres est bien établie, là on est appelé aussi, comme dans l'Église des Actes des Apôtres, à libérer, à autonomiser, à rendre capables les nouveaux disciples pour l'œuvre pour laquelle Dieu les a choisis. Est-ce que Dieu a choisi une œuvre pour toi? Est-ce que Dieu t'a libéré pour l'œuvre, pour l'appel qu'il a mis sur ton cœur? Est-ce que Dieu a mis sur le cœur des hommes et des femmes autour de toi, avec lesquels, dans lesquels tu as confiance, et qui ont dit, mais le Seigneur met sur notre cœur, il faut te libérer. Il faut que tu ailles le servir. Il faut que tu ailles dans une autre ville. Vous savez, il y a encore des villes en France, des 80 000 personnes qui n'ont pas d'église. Et un jour, j'espère qu'un couple d'ici partira pour cette ville avec un fardeau et avec un désir profond de pouvoir toucher cette ville pour Christ. Il faut le libérer. En Actes chapitre 6, verset 3 et verset 6, qu'est-ce qui se passe? Ils sont en train de servir les tables. Il y a des discussions. Il y a ceux qui sont négligés dans le service des tables. Alors les 12 convoquèrent la multitude, verset 2 des disciples, et dirent, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous cet homme de qui l'on rend un bon témoignage, qui soit plein de l'Esprit Saint, de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Quel emploi? Servir aux tables. Avec amour, avec un sourire, Peut-être en posant des questions pour savoir quelle était la difficulté, pourquoi les veuves venaient demander la nourriture, quels étaient les vrais problèmes à la maison, etc. Peut-être avoir un cœur qui va plus loin, la sagesse, l'Esprit Saint, la foi, pour servir aux tables. Ils ont été libérés, pour, et ça donnait donc la liberté aussi aux apôtres de s'appliquer à la prière et au ministère de la parole. Qui ? Moi ? Ah non, 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 Dieu va utiliser quelqu'un d'autre. Le quelqu'un d'autre est derrière moi. Qui, moi ? Non, non, non. C'est quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre. Vous savez, il y a le clergé et les laïcs. Qu'est-ce qu'un clergé ? Le clergé, c'est l'ensemble du corps religieux constitué par les ministres ordonnés, consacrés à accomplir les offices liés à une religion. Donc souvent, le clergé, il y avait cette grande fosse entre les deux, cette grande fossé, cette grande abîme entre les clergés et les laïcs. Qu'est-ce qu'un laïc ? Quand tu dis, oh non mais je ne suis qu'un laïc moi. Dieu ne m'a pas appelé à être pasteur, Dieu ne m'a pas appelé à un ministère, moi je ne suis qu'un laïc. Alors regarde ce qui est un laïc. Dans l'Église, un fidèle de Christ, qui est incorporé au Christ et devient membre du peuple de Dieu, participant à la mission de l'Église au cœur de la vie de ce monde. C'est ça le laïc. Qu'est-ce qu'un laïc ? Dans l'Église, un fidèle de Christ, qui est incorporé au Christ et devient membre du peuple de Dieu, participant à la mission de l'Église au cœur de la vie du monde. Comment est-ce que l'œuvre de Dieu se fait ? Par les laïcs. Qui sont les laïcs ? C'est les membres, c'est les disciples. Qui sont les laïcs ? C'est les saints. En Éphésiens 4, versets 11 et 13, donc les ministères dons, apôtres, prophètes, donc pasteurs, évangélistes, enseignants, en vue de l'œuvre du perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère, pour l'édification du corps de Christ. Comment est-ce que le corps de Christ est édifié ? Quand les laïcs, les saints, exercent le ministère auquel Dieu les a appelés et pour lequel ils ont été préparés. Alors, qui, moi ? Non, quelqu'un. Quelqu'un. Quelqu'un d'autre le fera. Comment pouvons-nous répondre à l'appel aux volontaires ? Qui, quand ? Oh, t'inquiète pas, pasteur, je m'en charge. Ah, j'aimerais bien entendre ça. Hein? Oh, t'inquiète pas, pasteur, je m'en charge. T'as même pas à y réfléchir ni à penser. J'ai compris. T'as même pas expliqué ? J'ai compris, j'ai tout étudié. Pourquoi ? Parce que on fait partie du corps de Christ qui est libéré et dont on rend capable pour l'action au sein du corps de Christ. Vous savez, il faut toujours chercher à se multiplier. Moi, en tant que pasteur, il faut que je multiplie des pasteurs. Toi, en tant que brebis, il faut que tu multiplies des brebis. Le ministère que Dieu nous a donné, le service que Dieu nous a donné, le cœur que Dieu nous a donné, il faut le multiplier, il faut le reproduire. Mais surtout, il y a des actes des apôtres, l'Église locale était un peuple de prière. De prière. Acte 1 et verset 14, et c'est le cinquième point. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière. Avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Tous, d'un commun accord, persévérer dans la prière. Que se passe-t-il quand l'Église prie ? Je vous ai dit que, bon, Karine n'était pas là, mais mercredi dernier, on était en train de prier pour Marc avec des larmes parce qu'on voyait la gravité de la situation et vraiment on demandait au Seigneur, Seigneur, nous avons besoin de notre frère et on l'aime et donc il y a un souci. Et tout d'un coup, il y a un jeune homme, François, qui était là, qui était possédé et qui a commencé donc à montrer qu'il avait besoin de la prière. Et nous avons commencé à prier. Et là, toute l'Église, tout le monde s'est levé autour. On était tous là en train de chasser, en train de prier. Quand ce jeune homme est rentré avec sa tante, il m'a dit, j'ai envie de tuer quelqu'un. Et au nom de Jésus, tu arrêtes de dire ça. Et quand on a prié, il y a eu un démon de suicide et homicide qui ont été libérés. Il a été libéré. Mais je vais vous dire, si par hasard il y avait des frères ou sœurs qui étaient un peu médiocres ce soir-là, alors là, quand on a commencé à prier pour François, tout le monde s'y met. Hein? Tout le monde était en train de prier, de chasser, de prendre position, Parce que cet homme qui se roulait par terre, cet homme qui criait, qui hurlait, il avait besoin de délivrance, il avait besoin d'être secouru par le Seigneur. Et toute l'église s'est levée. On était tous là. Alors, que se passe-t-il quand l'église prie? Acte 12 et verset 5. Pierre est en prison. La persécution est arrivée. Jacques avait été mis à mort. Pierre est en prison. Acte 12, 5. Pierre donc était gardé dans la prison. Et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières. L'église ne cessait d'adresser pour lui des prières. La prière engage le monde spirituel à agir en faveur du peuple de Dieu. La prière, par un processus, une action, une réponse surnaturelle, en réponse à la prière du peuple de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? Les anges commencent à s'activer à l'égard de Pierre. Pourquoi? Parce que l'Église ne cessait d'adresser des prières. Et que se passe-t-il? L'ange vient, verset 8, verset 7, voici un ange du Seigneur survint. En réponse à la prière de l'Église qui ne cessait d'adresser des prières à Dieu. L'ange apparaît, une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant aux côtes. Alors imaginez, aux côtés. Et en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Quand l'église a prié, les chaînes tombèrent. Et l'ange lui dit, mais mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit, encore enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit, le suivit. Ne sachant pas ce qui se faisait par l'ange fut réel. Il s'imaginait avoir une vision. Il pensait qu'il était dans un rêve. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, la seconde, ils arrivèrent à la porte du fer qui mène à la ville. Revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine, verset 11, que le Seigneur a envoyé son ange. Pourquoi? Parce que l'église a prié. À quel moment est-ce que les dominations spirituelles vont réagir quand ils voient l'église qui prie? Une réponse surnaturelle. Et les anges du Seigneur qui font partie du domaine spirituel, ils se sont mis en action et Pierre a été libéré. Bon, bien sûr, on voit après que l'église, elle est incrédule. Parce que Rhoda, elle voit Pierre. Rhoda, elle voit Pierre. Elle dit, mais voilà, mais Pierre est là. Mais non, tu es folle. Non, il est en prison, lui. Mais on prie pour qu'il soit libéré. On prie pour que le Seigneur agisse à sa faveur. Et bien sûr, donc, Pierre paraît par la suite. Et ils annoncent donc la grandeur de Dieu. Mais le peuple de prière a fait que les anges se mettent en action. Vous vous rappelez quand Jésus a dit à ses disciples, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Oui, on a tous le désir. On s'attend à quelque chose d'extraordinaire. On désire voir l'action du Saint-Esprit au milieu de nous. On désire voir des prodiges et des miracles. Mais ce n'est pas des prodiges et des miracles qui signifient que Dieu est là. Ce qui signifie que Dieu est là, c'est que le peuple de Dieu qui prie, c'est le peuple de Dieu qui marche dans l'humilité, dans la douceur devant lui. C'est le peuple de Dieu qui vit de telle manière que les gens sont convaincus que nous sommes disciples de Jésus-Christ par l'amour que nous avons les uns pour les autres. Alors que le Saint-Esprit puisse nous parler par rapport à l'évangélisation, par rapport au fait qu'on est appelé à faire des disciples, mais il faut trouver les nouveaux convertis pour faire des disciples. Il faut s'investir dans la vie de quelqu'un pour faire un disciple. La relation que nous avons les uns avec les autres, on ne peut pas avoir des exceptions de personnes, on ne peut pas avoir des sentiments différents par rapport à un tel, par rapport à une telle, par rapport à une telle famille, etc. On est tous appelés à avoir les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et par la suite, il faut qu'on soit libérés pour pouvoir agir, que Dieu puisse nous rendre capables au travers nos frères et sœurs, au travers donc ceux qui nous instruisent, au travers ceux qui prient pour nous, et que le Saint-Esprit puisse parler en disant, mettez-moi à part un tel pour l'œuvre pour laquelle je les ai préparés. Et surtout, un peuple de prière. Seigneur, ce matin, te demandons, Seigneur, que tu parles à nos cœurs. Seigneur, nous avons un tel trésor ici, dans cette pièce ce matin. Nous avons, Seigneur, un tel potentiel. Seigneur, la différence que ça pourrait faire, ce quartier, ce canal, de ces millions de personnes qui habitent cette Île-de-France. Allons-nous rester petit dans notre raisonnement, à nous rester en te limitant à chaque fois parce que on bloque, Seigneur, nos oreilles, on bloque ton action dans notre cœur. Je te demande, Seigneur, que cette église locale puisse être d'une parmi des centaines dans lesquelles les gens peuvent venir et voir Christ. Voir Christ, expérimenter ta présence et vivre pleinement la foi. Vivre pleinement, Seigneur, passer d'une religiosité à une vie réelle en toi, à une foi sincère, au nom de Jésus-Christ. Je te demande, Seigneur, que tu parles à nos cœurs. Seigneur, que on puisse comprendre, si on grandit en toi, on ne peut pas continuer, Seigneur, à céder aux distractions de ce monde, aux tentations de ce monde. Parce qu'on est en train de grandir, on est en train d'avancer, on est en train, Seigneur, de croître en toi. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à vraiment veiller, Seigneur, à ce que chaque personne, chaque frère et sœur qui vient ici dans ce lieu, soit, Seigneur, oh Dieu, debout en toi. Sois debout en toi, Seigneur. Nous sommes là, Seigneur, pour nous encourager les uns les autres. Et Seigneur, pour pouvoir répondre à des questions, pour pouvoir soutenir celui qui se sent abattu. L'Esprit de l'Éternel est sur nous et il nous a oint pour porter une bonne nouvelle, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la liberté à celui qui est captif et pour annoncer la guérison à celui qui est aveugle et pour enlever l'esprit abattu et le remplacer par un vêtement de louange. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à t'imiter. Aide-nous, Seigneur, à nous calquer sous le modèle de l'Église du Nouveau Testament, l'Église des Actes des Apôtres. Et que ta grâce, Seigneur, soit sur nous. Au nom de Jésus. Amen.